Salut à tous et bienvenue pour notre nouveau podcast Super Physique Hebdomadaire. Donc je suis encore une fois avec Julien Vénesson.
Bonjour à tous.
Donc je rappelle, auteur du livre La Nutrition de la Force et co-écrivain du livre qui vient de sortir qui s'appelle L'Assiette de la Force. Donc avec plein de recettes pour nous qui faisons de la muscu. Donc Julien est là parce que nous avons encore des questions diététiques. Donc Julien, première question.
Oui.
Que pensez-vous de l'alimentation en fonction des groupes sanguins?
Ah, c'est la première question, ça?
Ouais, c'est celle qui va te plaire.
On peut déjà... Bon, alors déjà, l'alimentation selon les groupes sanguins, hein, c'est à l'origine les livres du docteur Adamo, hein, le livre d'alimentation selon le groupe O, le groupe A, etc. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce qu'il a mis au point sa théorie. Il a fait réagir in vitro, donc en laboratoire... des protéines alimentaires avec du sang. Donc autrement dit, c'est complètement farfelu, parce que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la digestion, il y a une découpe des protéines qui se fait, ça change complètement la nature des protéines, et donc ça change la réaction du système immunitaire éventuellement quand il en rencontre. Donc c'est une théorie qui tient pas vraiment la route. Ce qu'il y a, c'est qu'elle fonctionne bien, les bouquins fonctionnent bien pour pas mal de gens, parce qu'en fait, il y a beaucoup de conseils qui sont repris quel que soit le groupe sanguin, comme par exemple le fait de limiter la consommation de produits laitiers. Il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas très bien les produits laitiers. Et aussi le fait de supprimer le gluten. Pour la même raison, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au gluten sans le savoir. Donc en prenant, ils pourraient prendre au hasard un autre groupe et avoir exactement les mêmes bénéfices. Hein. Un autre
bouquin. Mais c'est vrai que t'as des personnes, quand ils suivent ce genre de régime, ils disent que se sentir mieux, mieux progresser.
Bah ça, c'est pas forcément faux. Mais néanmoins, c'est pas vraiment lié au fait qu'un régime alimentaire soit adapté au groupe sanguin. C'est pas une alimentation qui est adaptée au groupe sanguin, comme le montre bien la technique utilisée, qui est pas fiable. Donc c'est simplement un autre mode d'alimentation qui est meilleur que celui que les personnes suivaient avant. Donc effectivement, ça peut se traduire par un mieux-être, et on peut y arriver autrement, de manière plus efficace. Surtout de manière plus efficace, parce que c'est pas précis, forcément, c'est pas génial, quoi. Donc c'est pas vraiment un truc que je trouve très intéressant.
Donc en gros, on va pas en tenir compte.
Non, mais c'est vrai que ça fait très sérieux, le régime selon les groupes sanguins, bon, on se dit, le mec, il sait de quoi il parle, mais concrètement, c'est pas vraiment ça, quoi. Donc... Moi, je conseille plutôt à ceux qui ont des problèmes chroniques, effectivement, de digestion ou des problèmes de santé, d'essayer de faire des régimes d'éviction, c'est-à-dire dans lesquels on va supprimer, par exemple, les produits laitiers, le gluten, qui sont des allergènes assez fréquents, qui posent pas mal de problèmes, enfin des allergènes souvent silencieux, mais il n'y a pas besoin d'aller prendre un régime de groupe sanguin. Hein.
Donc, je pense que ça répond à la question des internautes sur le sujet.
Bah j'espère.
Donc, alimentation du groupe sanguin, on oublie, c'est du vent, c'est du rêve. Voilà, donc, question d'entraînement. Donc, j'ai une question qui me plaisait bien. Donc, je l'ai résumé simplement, c'est est-ce que la gonflette existe? Et donc, la question, en fait, je développe pour ceux qui nous écoutent, c'était est-ce que si je m'entraîne lourd, donc en série 8 en moyenne, est-ce que mon muscle va mieux tenir que si je fais des séries longues? Parce qu'on a souvent entendu dire que quand tu fais des séries longues et que tu t'arrêtes, bah le muscle il dégonfle beaucoup plus vite que si tu faisais de la force.
Ouais.
Donc la réponse c'est très simple, c'est non. La gonflette n'existe pas. Ça n'existe pas de. Alors il y a un petit. Si on fait des tirs un peu plus longs, on va faire peut-être. On va avoir un peu plus de réserve de glycogène, donc on va être un peu plus gonflé. Donc on va peut-être avoir 3 mm de tour de bras en plus sur un bras correct. Disons 38-40 cm de tour de bras. Mais ça s'arrête là. Donc en fait ce qui compte. Quand on arrête l'entraînement, de toute façon, on perd. C'est aussi simple que ça. Qu'on s'entraîne lourd ou léger, c'est pareil. Et après, chacun perd à sa propre vitesse. L'erreur de base étant toujours de vouloir se comparer à son voisin, qui n'est pas du tout identique, et qui lui va perdre plus ou moins vite en fonction de, en comparaison de vous-même. Donc, si vous faites du muscle en série longue comme je préconise, non, ça ne part pas plus vite que de le faire en série courte. Et de toute façon, à mesure que vous progressez, de toute façon, vous passez en série longue parce que vous voyez bien que on vous reste mieux en série longue.
On peut faire un petit rappel technique sur comment ça marche la croissance musculaire. c'est pas très compliqué, hein, en fait, enfin, si on vulgarise beaucoup. C'est surtout une question de contrainte mécanique. Donc ici, en musculation, c'est apporté par la charge, le poids sur la barre. Et les deux composantes principales, ça va être d'une part la durée pendant laquelle on est soumis à cette contrainte, et d'autre part la force de cette contrainte. Donc plus on utilise des poids lourds, mieux c'est, et plus on est capable de rester longtemps sous ces poids lourds, mieux c'est. Donc c'est ce qui explique que par exemple des méthodes, peut-être pas à tout le monde, comme la méthode Lafay par exemple, dans ce cas-là, la contrainte mécanique est faible, mais on utilise des séries plus longues, avec des temps de repos plus courts, donc on augmente le temps de la contrainte. On peut prendre aussi un exemple pour illustrer ça, c'est les astronautes qui partent dans l'espace, ils échappent à la gravité, et de fait, ils n'ont même plus la contrainte naturelle qu'on a, nous, quand on marche, quand on se déplace, par exemple. Cette simple contrainte, elle entretient nos muscles, en fait. Et dans l'espace, il y a une fonte musculaire. Donc, ils ont des appareils de musculation sur les stations orbitales pour essayer de maintenir un peu de la masse musculaire, mais ils en perdent quand même. Et quand ils reviennent sur Terre, ils sont obligés de refaire pas mal de sport pour retrouver une bonne forme. Donc, nous, c'est le même principe, sauf qu'on va se mettre sous les barres.
Voilà, donc de toute façon, la gonflette n'existe pas. Donc, du muscle, c'est du muscle. Et il n'y a pas deux différents muscles qui existent. Hein. Donc, c'est souvent parce qu'on a l'impression que les mecs qui sont forts sont moins musclés que ceux qui sont musclés et moins forts. Sauf qu'on oublie beaucoup de paramètres que j'avais expliqué dans l'article Muscle et Force sur le site, donc vous pouvez retrouver dans la rubrique article. Mm-hmm. Et donc on voit bien que de toute façon la force, le muscle n'est qu'un facteur de la force parmi beaucoup d'autres. Donc c'est ce qui explique cette petite conclusion hâtive. Qui n'est pas justifié le moins du monde. ne pas oublier donc de se comparer d'abord à soi-même, et puis de toute façon il n'y a que ça qui fonctionne. Hein. Donc je pense que j'ai répondu à la question sur la gonflette. Julien, qu'en penses-tu?
Oui, très bonne réponse.
Bon, Julien, question pour toi. Mmh. Donc, c'était une question sur les cycles hormonaux, donc c'est Romain de la team qui me l'a posé, et donc je lui ai dit que je te répondrais la question.
D'accord.
Donc, on lui a dit, donc, pour ça que je t'en parle, donc, que les pics de forme étaient régis par les cycles hormonaux. Donc, il voulait savoir comment on pouvait gérer ces cycles hormonaux et comment ça fonctionnait exactement.
Alors, déjà, les cycles hormonaux, c'est plus marqué chez la femme. On voit bien, hein, elles ont des changements d'humeur qui sont plus marqués. Donc peut-être, alors là j'ai pas d'études sous la main, mais enfin c'est probable que chez la femme il y ait des différences de force qui soient plus ou moins marquées selon les cycles, mais je sais pas dans quelle mesure ça se traduit sur le plan pratique. Par contre chez l'homme, puisque c'est un homme qui t'a posé la question et on a un public majoritairement masculin, c'est pas hormonalement c'est pas les hormones qui expliquent le pic de forme. Qui explique que par exemple, puisque je disais tout à l'heure qu'on est par exemple plus en forme le matin ou plus en forme l'après-midi, ce sont les rythmes circadiens. C'est-à-dire qu'au niveau de notre horloge interne, au niveau du cerveau, on a une petite horloge qui est régulée pour faire des cycles de 24 heures environ. Et donc, à chaque moment, il y a quelque chose qui est plus important. Donc par exemple, au niveau musculaire, en général, d'ailleurs il n'y a pas de généralité, ça va dépendre des habitudes quotidiennes que l'on a qui vont faire qu'on va être plus fort à 17h ou à 9h du matin. Si vous êtes tout le temps fort à 17h, entraînez-vous à 17h, mais si un jour vous avez une compétition et vous allez passer à 9h, il faut vous entraîner pendant les mois, les semaines précédentes à vous entraîner à 9h. Le simple fait de faire ça, ça décale vos horloges internes et ça vous met en forme à ce moment-là. Alors techniquement, c'est parce qu'en fait, une horloge interne, elle n'est pas uniquement au niveau du cerveau, elle n'est pas générale, et aussi, on a découvert qu'il y avait aussi une sensibilité locale, c'est-à-dire que le muscle aussi répond à quelque chose de circadien. C'est ce qui explique que, donc, effectivement, on est parfois plus fort le matin, plus fort l'après-midi, enfin, toujours là, c'est toujours au même moment, à chaque jour, toujours à la même heure. Est-ce que ça répond un peu à la question ou...
Ben, enfin... Je vous posais la question plus précisément. En fait, il y a un athlète qui lui avait dit que c'était comment En fait, il arrivait bien à gérer ses cycles hormonaux et qu'il arrivait pile poil en forme pour la compétition.
Bah, c'est peut-être qu'il faisait ce que je dis, c'est-à-dire simplement si il savait que sa compétition c'était le matin, bah il s'entraînait le matin. Bah ça c'est intelligent. Après, ça n'a pas de rapport avec la testostérone ou avec l'hormone de croissance ou quoi que ce soit. Hein.
Voilà, bah c'était la réponse que j'attendais.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est bien que je voulais entendre que c'était bien du bidon.
J'ai pas utilisé ce mot, mais non, mais par contre, c'est intéressant de savoir que qu'on peut déplacer son pic de forme.
Ouais.
De toute façon, c'est complètement logique. Imagine, par exemple, nous, on habite en France. Demain, tu vas habiter au Japon, par exemple. Il y a un décalage horaire qui est très important. Tu te retrouves dans ce pays-là et tu te mets à faire de la muscu. Et supposons que bah, tu remarques que ton pic de forme là-bas, c'est 17h. Et en France, c'était aussi 17h. Oui, mais 17h ici, c'est pas le même 17h que là-bas. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, donc tu t'habitues.
Donc voilà, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose de figé en soi. C'est l'environnement qui va moduler la manière dont on va fonctionner au niveau nerveux aussi.
Ouais, donc c'est bien une question d'habitude, et l'autre racontait
voilà.
Du pipeau pour expliquer une préparation pseudo-scientifique.
Peut-être.
Ouais, bah c'est bien ça. Alors, dernière question du jour, que pensez de la technique du stop and go? Donc,
c'est
plus
pour toi, ça.
Ouais, c'est pour moi, bah tu peux donner ton avis aussi, mais c'est... En gros, le stop and go, c'est que par exemple, faire ses répétitions à la claque au développé couché. Donc, c'est-à-dire, je descends la barre, j'attends une seconde posée sur la poitrine, et hop, je repousse. Donc au lieu d'enchaîner et de me servir de l'élasticité de mes muscles, entre guillemets, eh ben je désactive cette élasticité et je ne me sers que de ma force volontaire, on va dire.
Donc c'est bien pour ceux qui sont pas assez explosifs.
Voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser, tu vois, t'as bien fait intervenir parce que j'y pensais pas, j'y pensais plus, qu'on peut utiliser pour travailler l'explosivité par exemple. Donc on est en bas, on met rien, on essaye d'exploser. Donc ça a un intérêt dans ce sens-là. J'avais remarqué aussi que ça avait un intérêt, quand t'avais mal aux articulations, des fois de faire une pause en bas, c'était moins traumatisant.
Mm-hmm.
Alors que ça devrait être l'inverse, théoriquement. Mais c'était moins traumatisant, donc par exemple, de faire une pause en bas au hack squat, à condition de pas s'écraser en bas, hein, forcément, était un peu moins traumatisant que d'enchaîner les répétitions. Mais à part, est-ce que ça peut aider aussi, dans le recrutement des muscles. Donc si vous avez du mal, par exemple, à recruter un muscle, en faisant le mouvement normalement, donc c'est-à-dire à vitesse normale, sans faire de pause, ça peut changer le recrutement des muscles. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple très simple? Si j'en ai un en tête, j'en ai pas un en tête, mais ça peut changer un peu le recrutement, c'est-à-dire qu'on sent un peu mieux un muscle qu'on a d'habitude, qu'on va moins sentir, donc ça peut aider, mais en dehors, donc travail de la vitesse, moins de traumatisme, et changement de recrutement, mais c'est léger. Faut pas trop d'intérêt à faire du stop and go parce que il y a tellement à faire avec la base en faisant ses répétitions normalement, en planifiant son entraînement avec des cycles, en calculant bien sa progression au fil des semaines, donc en faisant bien varier l'intensité, il y a déjà moyen d'arriver très très haut quoi. Donc pour moi, toutes ces techniques un peu d'intensification, donc, dont là le stop and go, sont un peu superflues à moins d'être d'avoir 15 ou 20 ans d'entraînement et puis de se dire bon bah j'ai envie de m'amuser et je vais faire du stop and go. Mais sinon à part ça je vois pas trop l'intérêt, sauf à part bah voilà donc pour mieux sentir mes muscles avec de la chance, pour que ce soit moins traumatisant ou pour travailler l'explosivité. Mais bon, encore une fois, même pour l'explosivité il y a des choses plus intéressantes comme l'utilisation d'élastiques qu'on met par exemple le coucher qui nous tire vers le bas et puis quand hop d'un coup on a envie de pousser vite.
Peut-être plus intéressant pour les gens qui font du power.
Voilà, bah de toute façon tous ceux qui font du power, qui font du développé couché en compétition, ils s'entraînent pratiquement tous à la claque. Donc, mais après là comme l'action était plus dans une optique de prise de muscle, je vois pas trop l'intérêt à moins d'avoir un très très gros niveau et d'avoir du temps à perdre. J'ai vu qu'on avait une dernière question sur le forum, donc j'avais pas noté, mais bon, comme il nous reste un peu de temps. Donc y a-t-il, Julien, c'est pour toi.
Ah.
Y a-t-il un intérêt à prendre de l'isolat de whey en dehors des périodes de régime?
J'ai déjà du mal à comprendre la question.
Donc est-ce qu'il y a un intérêt à prendre de l'isolat?
Je sais pas, c'est un peu comme si tu me demandais est-ce qu'il y a intérêt à manger des haricots verts en dehors du mois de janvier, par exemple.
Ouais, mais je pense que le mec en fait voulait dire par rapport à un concentré.
Ah, bah pour moi l'isolat c'est toujours mieux que le concentré de toute façon. Donc la question se pose pas. Ah, tu veux dire par rapport à la teneur en lipides et en glucides?
Ouais, je pense que c'est par rapport à ça la question.
Oui, alors donc effectivement, bah, un petit rappel pour ceux qui sont pas bien au courant, dans les whey, il y a principalement de l'isolat ou du concentrat, donc concentré. Le concentrat est moins bien filtré, donc on retrouve plus de lactose, un petit peu plus de lipides et un petit peu plus de glucides. L'isolat, en général, il est très pur, c'est-à-dire une haute teneur en protéines, très peu de glucides, très peu de lipides, et en général, pas de lactose ou alors vraiment des traces. Donc ça convient mieux aux personnes qui sont intolérantes au lactose, premièrement. Ensuite, savoir si cette quantité de glucides et de lipides va changer quelque chose ou pas, absolument rien du tout. Ça rapporte, enfin, sur une dosette, c'est des quantités qui sont infimes. C'est pas ça qui va conditionner l'échec ou la réussite d'un régime, de savoir si on choisit de l'isolat ou du concentrat. Hein. Ça, c'est un truc marketing de vendre de l'isolat pour le régime. Hein. Ça a pas de sens.
Bah oui, mais.
Bah non, bah je réponds.
Ouais, bah. C'est pour ça que tu es là.
Donc voilà, l'isolat c'est simplement une protéine de meilleure qualité qui est moins dénaturée et le concentrat c'est plus moins cher quoi. C'est plutôt votre budget qui va vous entraîner vers l'un ou l'autre. Si vous avez un peu de sous, prenez un isolat, ce sera mieux, ce sera plus digeste.
Ouais,
bah. En termes de gains de masse musculaire, il n'y aura pas une différence vraiment importante. Et puis en termes de pour le régime, alors, vraiment au niveau des calories, ça n'est pas significatif pour moi. Aucune importance.
Bon, bah, voilà. Je pense que ça répond bien à la question. Hein. Donc, on est bien éclairé. Donc, bon, bah, c'est la fin de ce nouveau podcast que vous pourrez écouter dès demain sur le site. Donc, bah, encore une fois, merci Julien d'être venu participer.
Je vais aller me coucher maintenant.
Je peux pas dire, mais Julien n'est pas toujours en veste de costard. Il a brisé le mythe tout à l'heure en mettant la webcam. Il n'est pas toujours bien habillé.
La suite restera entre nous.
Voilà, la suite restera entre nous. Bon bah, donc merci encore à toi Julien. Et puis bonne écoute à tous sur Superphysique. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions sur le forum dans la rubrique entraînement. Donc n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et puis on s'amuse bien. Donc voilà.
À bientôt.
À bientôt.